Aristote, Politique, livre 4, chapitre 9. Sommaire. Antiquité de certaines institutions politiques, et spécialement de la division par caste et des repas communs. Exemple de l'Égypte, de la Crète et de l'Italie. De la division des propriétés dans la République parfaite. Du choix des esclaves. Paragraphe 1. Ce n'est point du reste en philosophie politique une découverte contemporaine ni même récente que cette division nécessaire des individus en classes distinctes, les guerriers d'un côté, les laboureurs de l'autre. Il existe encore aujourd'hui en Égypte et en Crète, institué là, dit-on, par les lois de Sésostris, ici, par celle de Minos. Paragraphe 2. L'établissement des repas communs n'est pas moins antique et remonte pour la Crète au règne de Minos et pour l'Italie à une époque encore plus reculée. Les savants de ce dernier pays assurent que c'est un certain Italus, devenu roi de l'Œnotrie, que les Œnotriens ont changé leur nom en celui d'Italien. Et que le nom d'Italie fut donné à toute cette partie des rivages d'Europe, comprise entre les golfes Silétique et Lamétique, distants l'un de l'autre d'une demi-journée de route. Paragraphe 3. On ajoute qu'Italus rendit agriculteurs les Œnotriens, auparavant nomades, et que parmi d'autres institutions, il leur donna celle des repas communs. Aujourd'hui même, il y a des cantons qui ont conservé cette coutume, avec quelques-unes des lois d'Italus. Elle existait chez les Opiques, habitants des rivages de la Tyrrhénie, et qui portent encore leur ancien surnom d'Ausoniens. On la retrouve chez les Coniens, qui occupe les pays nommés Syrtis, sur les côtes de l'Iapygie et du golfe Ionique. On sait d'ailleurs que les Coniens étaient aussi d'origine œnotrienne. Paragraphe 4. Les repas communs ont donc pris naissance en Italie. La division des citoyens par classe vient d'Égypte, et le règne de Sésostris est bien antérieur à celui de Minos. On doit croire, du reste, que dans le cours des siècles, les hommes ont dû imaginer ces institutions et bien d'autres plusieurs fois, ou pour mieux dire, une infinité de fois. D'abord, le besoin même a nécessairement suggéré les moyens de satisfaire les premières nécessités. Et ce fonds, une fois acquis, les perfectionnements et l'abondance ont dû, selon toute apparence, se développer dans le même rapport. C'est donc une conséquence fort logique que de croire cette loi également applicable aux institutions politiques. Paragraphe 5. Tout à cet égard est bien vieux. L'Égypte est là pour le prouver. Personne ne contestera sa prodigieuse antiquité, et de tout temps elle a possédé des lois et une organisation politique. Il faut donc suivre nos prédécesseurs partout où ils ont bien fait, et ne songer à l'innovation que là où ils nous ont laissé des lacunes à remplir. Paragraphe 6. Nous avons dit que les biens-fonds appartenaient de droit à ceux qui possèdent les armes et les droits politiques. Et nous avons ajouté, en déterminant les qualités et l'étendue du territoire, que les laboureurs devaient former une classe séparée de celle-là. Nous parlerons ici de la division des propriétés, du nombre et de l'espèce des laboureurs. Nous avons déjà rejeté la communauté des terres admise par quelques auteurs. Mais nous avons déclaré que la bienveillance des citoyens entre eux devait en rendre l'usage commun, pour que tous fussent assurés au moins de leur subsistance. On regarde généralement l'établissement des repas communs comme parfaitement profitable à tout État bien constitué. Nous dirons plus tard pourquoi nous adoptons aussi ce principe. Mais il faut que tous les citoyens, sans exception, viennent y prendre place. Et c'est chose difficile que les pauvres, en y apportant la part fixée par la loi, puissent en outre subvenir à tous les autres besoins de leur famille. Paragraphe 7. Les frais du culte divin sont encore une charge commune de la cité. Ainsi donc, le territoire doit être divisé en deux portions, l'une au public, l'autre au particulier, et toutes deux seront subdivisées en deux autres. La première portion sera subdivisée pour fournir à la fois et aux dépenses du culte et à celles des repas communs. Quant à la seconde, on la divisera pour que chaque citoyen possédant quelque chose en même temps, et sur la frontière et aux environs de la cité, soit intéressé également à la défense des deux localités. Paragraphe 8. Cette répartition, équitable en elle-même, assure l'égalité des citoyens et leur union plus intime contre les ennemis communs qui les avoisinent. Partout où elle n'est pas établie, les uns s'inquiètent fort peu des hostilités qui désolent la frontière. Les autres les redoutent avec une honteuse pusillanimité. Aussi, dans quelques États, la loi exclut les propriétaires de la frontière de toute délibération sur les agressions ennemies qui les atteignent, comme trop directement intéressés pour être bons juges. Tels sont les motifs qui doivent faire partager le territoire, comme nous venons de le dire. Paragraphe 9. Quant à ceux qui le doivent cultiver, si l'on a le choix, il faut prendre surtout des esclaves et avoir soin qu'ils ne soient pas tous de la même nation et surtout qu'ils ne soient pas belliqueux. Avec ces deux conditions, ils seront excellents pour accomplir leur travail et ne songeront point à s'insurger. Ensuite, à ces esclaves, il faut joindre quelques barbares à l'état de serfs et qui présenteront les mêmes qualités que les esclaves. Sur les terres particulières, ils appartiendront aux propriétaires. Sur les terres publiques, ils seront à l'État. Nous dirons plus loin comment il faut agir avec les esclaves et pourquoi l'on doit toujours leur présenter la liberté comme le prix de leurs travaux.